Savez-vous qu'il se vend chaque année plusieurs centaines de milliers d'exemplaires de la Bible? On peut dire que la Bible est vraiment le best-seller par excellence. Elle est absolument hors concours en ce qui concerne le nombre d'exemplaires vendus. J'ai appris récemment qu'en 1961, il s'en est vendu 40 millions d'exemplaires dans le monde. Et il y a 450 ans qu'on l'imprime. Aujourd'hui, elle est traduite dans sa totalité ou par portion en plus de 1140 langues et dialectes. On peut la lire aussi bien en japonais qu'en arabe, en breton qu'en malgache, en chinois qu'en swahili et jusqu'en esquimau. Cette extraordinaire diffusion de ce livre non moins extraordinaire pourrait donner l'impression que la Bible est un livre bien connu. Hélas, il ne faut pas longtemps pour se rendre compte que ce n'est pas nécessairement le cas. On parlera avec passion du dernier prix Nobel de littérature ou du dernier roman de tel écrivain à la mode, mais il n'en est pas de même de la Bible. Elle a sa place dans la bibliothèque familiale comme une sorte d'œuvre d'art qu'on ne peut pas ne pas posséder. On l'a acheté, ce livre, non pas avant tout pour le lire, mais pour pouvoir dire « j'ai la Bible ». Il est vrai que de nombreuses personnes s'en procurent un exemplaire avec la ferme intention de prendre connaissance de son contenu. Mais on s'aperçoit vite que la Bible ne se lit pas comme un roman. Elle ne fait pas usage de ces recettes littéraires connues de tous les romanciers qui essaient de capter l'attention du lecteur et alimenter son intérêt jusqu'à la fin. C'est pourquoi, au premier contact, le texte nous en paraît ennuyeux, aride et rébarbatif. On l'ouvre au hasard. On lit un passage ou deux, et pour peu que l'on tombe sur une généalogie, cette énumération interminable de noms bizarres, on se dit qu'on n'y comprendra jamais rien, et l'on range le volume dans la bibliothèque. On n'y touchera plus avant longtemps. Ainsi, une attitude regrettable se forme à l'égard de la Bible. Ou bien l'on trouve que la lecture en est trop difficile et ennuyeuse, ou bien l'on juge que c'est un domaine trop sacré pour que le profane s'en mêle, et qu'il faut en laisser l'étude et l'enseignement au clergé. Si cela est précisément votre cas, si vous n'ouvrez la Bible qu'avec hésitation pour la ranger ensuite avec découragement, permettez-moi de vous donner quelques indications, un minimum d'explications, et je vous promets que vous aborderez la lecture de votre Bible avec une meilleure disposition et d'une manière agréable et profitable. Nous voici donc avec une Bible en main. Comment faut-il la lire ? Il est évident que l'on ne va pas l'aborder comme un roman. C'est avant tout un document pris sur le vif, l'histoire des relations de Dieu avec les hommes depuis le commencement de la race humaine. Mais avant d'être une histoire tout court, ce livre rapporte d'abord ce que Dieu attend des hommes. C'est pourquoi l'on peut dire que la Bible est l'expression de la volonté de Dieu à l'égard des hommes. On y trouve là une foule de personnages, une foule d'événements, couvrant des siècles et des siècles d'histoire humaine, de sorte qu'il est nécessaire de s'orienter un peu et de prendre quelques points de repère avant de s'aventurer. Le commencement de n'importe quoi est toujours important. Normalement, on entame un livre à la première page, au premier chapitre, mais ce n'est pas ce que je vous recommanderais ici. En ouvrant votre Bible, la première chose que vous avez pu remarquer, c'est qu'elle se divise en deux parties principales, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Sans qu'il soit nécessaire d'entrer ici dans le détail pour expliquer ce qui relie et ce qui distingue ces deux parties, il faut savoir au moins que l'Ancien Testament est une préparation à un grand événement, la venue du Messie. Le Nouveau Testament s'ouvre précisément sur la naissance de ce Messie annoncé. En fait, le centre de toute la Bible est Jésus-Christ. C'est pourquoi il est préférable de commencer par Jésus-Christ, c'est-à-dire par les Évangiles, les quatre premières sections ou quatre premiers livres du Nouveau Testament, à savoir Matthieu, Marc, Luc et Jean. Chaque évangile décrit la vie de Jésus. On demandera peut-être pourquoi quatre récits d'un même fait. Ce à quoi l'on pourrait répondre, quatre témoignages valent mieux qu'un, car ce sont effectivement des témoignages. C'est pourquoi l'on dit l'évangile selon Matthieu ou selon Jean. On s'aperçoit en fait que ces quatre récits se complètent souvent par des détails omis dans l'un et que l'on trouve consignés dans l'autre. Je vous suggère donc de commencer par l'évangile selon Marc. C'est le plus court et le plus facile à comprendre. Vous pourrez ensuite compléter votre lecture par l'évangile selon Matthieu. Voilà donc notre première étape. Voyons la suite. La conclusion du récit des évangiles nous raconte l'ascension du Christ. Que s'est-il passé ensuite? La suite chronologique du récit des évangiles est cette section du Nouveau Testament appelée « Les Actes des apôtres ». C'est un texte qui vous passionnera par son dynamisme et sa richesse en événements. Les Actes des apôtres racontent l'histoire de l'Église pendant les 30 premières années de son existence, sa fondation à Jérusalem, la conversion des premiers chrétiens, les premières persécutions et la diffusion de l'Évangile dans toute la Palestine, l'Asie mineure et jusqu'en Europe. Par les nombreuses conversions qu'il décrit, ce livre répond à la question qu'il faudra tôt ou tard se poser : que dois-je faire pour être sauvé ? Après les Actes des apôtres, il faut logiquement entreprendre la lecture des épîtres, c'est-à-dire des lettres destinées aux églises que nous avons vues naître dans les Actes. Lettres de Paul à l'église d'Éphèse, à l'église de Rome, de Corinthe, etc. Il y a aussi deux lettres de Pierre, une lettre de Jacques. Certaines lettres sont adressées à une seule personne, par exemple les remarquables lettres de Paul à Timothée, le jeune évangéliste. Celle adressée à un nommé Philémon est un chef-d'œuvre de fraîcheur et de délicatesse. Vous pouvez lire ces épîtres les unes après les autres, ou au hasard, comme vous le désirez. Elles sont au nombre de 21. Écrites il y a presque 2000 ans, vous les trouverez toujours vivantes. Elles constituent un guide de la vie chrétienne pour tous les temps. Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec le langage biblique, vous pouvez entreprendre la lecture de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, écrit par l'apôtre Jean. L'Apocalypse est un texte hautement imagé, aux descriptions souvent déroutantes. Il a pour but d'annoncer le triomphe final de Dieu. Il contient néanmoins des passages très clairs et fort édifiants. Ceci est vrai d'ailleurs de tous les livres de la Bible que vous lirez. Ne vous laissez pas déconcerter ou décourager par les passages difficiles. Contentez-vous de les lire pour le moment. Vous leur donnerez un nouvel assaut plus tard. Ils sont moins nombreux que vous ne le craignez. Il suffit parfois de les relire quelque temps après pour que leur sens profond vous apparaisse clairement. À cet égard, il convient de rappeler la remarque de l'humoriste Mark Twain à l'égard de ceux qui trouvent prétexte à ne pas lire la Bible dans le fait qu'elle contient des passages difficiles. « Dans la Bible, dit-il, ce ne sont pas les passages difficiles qui me mettent mal à l'aise, mais au contraire, ceux dont le sens est parfaitement clair. » Quant à l'Ancien Testament, c'est le gros morceau. Il compose les trois quarts de votre Bible. Mais vous savez déjà qu'il constitue un itinéraire progressif vers le Christ. Vous pouvez commencer par le commencement, c'est-à-dire par la Genèse. Après un bref aperçu des origines de l'humanité, c'est à partir d'Abraham que l'histoire commence vraiment, c'est-à-dire à partir du chapitre 11. Avec Abraham, vous assistez à la formation d'un peuple qui deviendra une nation, puis un royaume. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, dont le nom sera changé en Israël. Israël aura 12 fils qui deviendront les 12 tribus. Ce sera ensuite l'avènement de Moïse qui libérera le peuple de l'esclavage égyptien, lui donnera la loi de la part de Dieu et le conduira jusqu'à la terre promise, c'est-à-dire la Palestine. Avec le livre de Josué, vous assisterez à la conquête de la terre promise. Puis ce sera l'époque des juges en Israël. Enfin, la nation se donnera des rois. David et Salomon sont les plus célèbres. Mais le royaume d'Israël va se désagréger peu à peu, et l'élite du peuple sera déportée à Babylone par le vainqueur d'Israël, le roi Nabuchodonosor. Cette partie nettement historique de l'Ancien Testament, fertile en événements, se termine par un aperçu de la vie en Israël durant les 100 premières années après le rapatriement des déportés. Mais l'Ancien Testament n'est pas terminé. La table des matières de votre Bible mentionne encore quelques livres dits « poétiques », dont le plus célèbre, le plus prestigieux, est sans doute le recueil des 150 psaumes. Non moins célèbre est le livre de Job, qui est une longue méditation sur la souffrance humaine, et l'Ecclésiaste, qui s'interroge sur le sens de la vie. Et pour terminer, voici la collection des écrits des prophètes, dont les plus célèbres sont Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Ils sont au nombre de 17. Ils représentent l'âme religieuse d'Israël. Inlassablement, ces hommes, conscients de la mission que Dieu leur a confiée, animés par la passion de Dieu, de sa justice et de son amour, ces hommes vont annoncer la venue du règne de Dieu et du Messie, Sauveur et Roi. Leurs prononcements sont presque toujours précédés par cette formule solennelle et obsédante « Ainsi parle l'Éternel ». Voilà brièvement ce qu'il faut savoir avant d'aborder la lecture de la Bible. Il est évident que vous pouvez vous procurer en librairie un très bon guide pour la lecture de la Bible, et cela à un prix très modique. Et nous demeurons à votre disposition pour vous faire parvenir, sur simple demande et gratuitement, des traités et même un cours biblique pour vous aider à mieux connaître ce livre des livres. Avant de conclure, je voudrais insister sur deux derniers points. Tout d'abord, il faut une fois pour toutes dissiper ce malentendu qui fait croire à certaines personnes que la Bible catholique et la Bible protestante, ça n'est pas la même chose. Cela est faux. Une Bible est appelée catholique ou protestante selon qu'elle a été traduite à partir des mêmes textes originaux hébreux et grecs par des traducteurs catholiques ou par des traducteurs protestants. Il y a eu plus de 50 traductions de la Bible. Les plus récentes et les plus courantes sont au nombre de 4 ou 5. Peu importe la traduction que vous utilisez, c'est toujours la parole de Dieu. Deuxièmement, comme nous l'avons déjà noté au commencement de cet exposé, la Bible est avant tout une communication de Dieu à l'homme. Dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé essentiellement au peuple élu, le peuple des Juifs. Dans le Nouveau Testament, il s'adresse à tous les hommes, par le Christ et ses apôtres. Je dis bien à tous les hommes, et à chaque homme en particulier, et non pas seulement à quelques privilégiés initiés au mystère de Dieu. Que nous soyons pauvres ou riches, hommes de science ou ignorants, Dieu s'adresse à chacun d'entre nous par le Christ et ses apôtres, car tous nous avons un besoin vital de savoir ce qu'il a à nous dire. Et il nous l'a dit dans le langage des hommes, car telle est la Bible, le livre où Dieu me parle, la parole de Dieu, révélation de la volonté de Dieu coulée dans un moule humain. C'est pourquoi David a pu dire « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Chers amis, il ne tient plus qu'à vous pour éclairer votre vie de cette même lumière.